Vous écoutez Bestseller, le premier podcast francophone qui vous dévoile les secrets du marketing des plus grandes enseignes. Steve Crispin va vous expliquer comment intégrer les techniques des plus grandes marques pour développer votre business sur un marché en constante évolution. Reconnu pour son approche hybride du marketing, à contre-courant des pratiques commerciales traditionnelles, Steve vous partage son expérience et va faire de vous un best-seller.
Pourquoi est-ce que la majorité des entreprises, start-up ou indépendants qui se lancent dans une nouvelle activité se retrouvent après 3 ans, parfois moins, totalement bloquées et dans l'impossibilité de faire évoluer leur business davantage ou encore face à des difficultés financières importantes? Eh bien, quand les entreprises ont ce type de difficultés, la raison principale est souvent que leurs produits ne coûtent pas assez cher ou alors qu'ils n'en vendent pas assez. Ça se vérifie dans les produits de service la plupart du temps. Donc, beaucoup de start-up visent à acquérir un grand nombre de clients et proposent un produit à un prix qu'un plus grand nombre de personnes peut potentiellement s'offrir. Donc en réalité, la réflexion, c'est de se dire quoi ? On a de la concurrence, donc notre produit, si on le met moins cher que les autres, potentiellement plus de gens pourront l'acheter. On va donc toucher plus de monde et donc, entre guillemets, augmenter notre chiffre. La principale conséquence de cette démarche, et c'est très peu y pense au départ, c'est que plus de clients demandent plus de travail, plus de main-d'œuvre, plus de ressources humaines, d'accord ? Ça engage plus de frais, d'accord ? Pour livrer le produit et sécuriser le back-end en interne, bref, ça augmente les charges en gros. Et donc, plus vous avez de clients, plus vous augmentez vos charges, mais votre marge bénéficiaire par client, elle plafonne. Donc en fin de compte, vous vous retrouvez à traiter 200 clients, d'accord, ou 500 clients, mais votre réalité à vous, elle est la même que si vous en aviez eu 20. Et ça, je vous assure que c'est une expérience que j'ai personnellement fait, une expérience, une erreur même, enfin j'ai expérimenté l'erreur, on va dire ça comme ça, et à un moment donné, on se retrouve bloqué. Et c'est très très embêtant parce que on se dit, waouh, on génère quand même un chiffre important, colossal, pour ne pas dire, voilà. Mais les charges liées directement à la livraison de ce produit-là bloquent l'entreprise dans son développement et empêchent de scaler et empêchent d'aller à l'étape supérieure, quoi, empêchent de se développer au niveau au-dessus. Donc c'est-à-dire qu'on est trop petit pour être gros et trop gros pour être petit. C'est très très embêtant. Et donc la plupart des jeunes entreprises font cette erreur-là. Au lancement de leur activité, beaucoup veulent à tout prix obtenir des parts de marché et s'imposer sur leur segment avec le plus grand nombre de clients possible. Et j'en rencontre énormément encore des startups aujourd'hui qui font cette erreur-là. Et je leur dis à tous que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Donc, même si cette stratégie est celle des grandes entreprises qui nous inspirent tous, il ne faut pas perdre de vue que ces entreprises-là ont assuré leur stabilité et leur rentabilité avant toute chose. Alors, ou dans d'autres cas, on bénéficie de levées de fonds importants qui leur permettent de travailler à perte, entre guillemets à perte, pendant 2-3 ans, parfois plus, hein, pour imposer ses propres règles du marché. Tout le monde n'a pas la chance et la possibilité de lever, 20 millions d'euros ou 30 millions d'euros pour lancer sa start-up et assurer ses arrières tout en étant agressif au niveau marketing. Hein, si c'est votre cas, tant mieux. Ou pas. Moi, j'ai jamais été fan de cette méthode, hein, qu'on peut appeler dumping, d'une certaine manière. Et donc, la majorité des startups qui tombent dans ce travers sont souvent dans un marché qui est ultra concurrentiel. Et ils pensent juste qu'ils n'ont pas d'autre choix que de jouer la guerre des prix pour prendre des clients à la concurrence, tout simplement, et occuper une plus grande part de marché. Donc, c'est en fait le lion qui se mord la queue. Quoi. On se dit, voilà, je suis sur un marché concurrentiel, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur. Si je veux être, si je veux ma part du gâteau, entre guillemets, je morceau magique, être moins cher, piquer des clients aux autres et grandir comme ça. Donc, moi, la solution que je vous propose aujourd'hui, elle est très simple. Augmentez vos prix. Augmentez vos prix. Tout simple. Là, j'en entends déjà dans leur voiture ou dans leur train ou quoi, se dire, ah, merci Steve, t'es bien gentil, mon grand. Quelle bonne info, tiens. Hein, mais c'est pas si simple, me direz-vous. Hein, j'entends beaucoup qui disent, mais c'est bien gentil d'augmenter ses prix, mais c'est pas si facile d'augmenter ses prix. En fait, non, effectivement, c'est pas si facile, mais c'est pas si compliqué non plus. Donc, si du jour au lendemain, vous doublez vos prix sans rien changer, ça risque effectivement de poser un gros, gros, gros problème. C'est sûr. Mais je vous propose d'analyser avec vous un cas concret hein, pour que ce soit plus parlant. Et on va voir avec ensemble deux leviers, d'accord, qui sont employés par un grand nombre de grandes enseignes. Hein, beaucoup de grandes marques utilisent cette technique, ces fameux deux leviers. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne et comment vous pourrez éventuellement l'appliquer dans votre activité, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous êtes buveur de café ou pas. Moi, bien. Si oui, vous avez certainement déjà acheté du café en supermarché, hein, je présume. Vous connaissez donc le prix moyen d'un très bon café au kilo. D'accord ? Donc, par exemple, un très bon café coûte entre 10 et 12 euros du kilo, hein, plus ou moins. Enfin, un très bon café, hein, voilà. Café de tous les jours, hein, voilà, bonne qualité. Voilà. 20 euros si vous voulez du très haut de gamme, hein, donc produit qu'on ne trouve pas dans la grande distribution en général. Si vous voulez du produit de luxe, hein, Blue Mountain, Copilouac ou autre, on va peut-être monter jusqu'à 30 euros du kilo, peut-être plus, 50 euros admettons, je ne sais pas. J'en ai jamais acheté au kilo, j'en ai déjà bu, mais j'en ai jamais acheté au kilo. Et encore une fois, c'est le genre de produit que vous n'allez pas trouver dans la grande distribution. Donc on va dire 10-12 euros au café moyen, 20 euros haut de gamme, 30 et 50 euros du luxe. Dans un supermarché, combien de marques pouvez-vous trouver dans les rayons ? Bah, il doit y en avoir entre 15 et 20 probablement, sans compter les produits en marque blanche, les différents conditionnements, etc. Donc 15-20 marques différentes, moyenne de prix 10-12 euros. Okay ? Alors, imaginez que demain, vous rencontrez un vieil homme, un Colombien, un vieux Colombien, qui désire remettre ses affaires et vous céder sa plantation pour un euro symbolique. Voilà, il est très 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 âgé, il se sait condamné, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, il n'a pas de descendants, il n'a rien du tout, il est seul au monde, le pauvre homme. Personne ne veut racheter son exploitation, etc. Il vous dit, voilà, pour un euro, tu as mon exploitation de café, tu as ma récolte, tu as tout, machin. Voilà, ma plantation est à toi, cadeau, au revoir. Bon, top, vous voilà sur le marché du café, félicitations. Hein ? Donc, votre prix de revient maintenant, c'est ce qui vous intéresse, c'est votre prix de revient, c'est pas le prix de vente. Ce qui vous intéresse avant toute chose, c'est votre prix de revient. Donc, on va dire qu'il est d'environ entre 1 et 2 euros. Je ne connais pas très bien les coûts, mais j'imagine que, pour ce que je me suis renseigné un petit peu, on va dire 1,50€, 2 euros packaging compris, d'accord, et vous avez quelque chose de correct, hein, pour de l'industriel, enfin, industriel à échelle humaine, mais industriel quand même, donc, votre prix de revient, on va dire qu'il est 2 euros du kilo. Okay ? Donc, vous devez maintenant concurrencer des marques établies qui se vendent à 10 euros du kilo. Et vous vous dites qu'en vendant votre café 7, 8 euros du kilo, vous dégagez une marge qui est déjà très confortable, hein, et vous vous assurez d'attraper des parts de marché. Hein. Vous êtes 3 euros moins cher que la moyenne, ça vous revient à 2. Vous dégagez 5 euros de marge, voilà. Pas mal, ok, super. Sauf que non, en fait non, c'est nul, c'est mauvais. C'est oublier carrément l'idée. Pourquoi ? Parce que ce type de produit, le café, fait partie des habitudes du quotidien. Et peu de gens veulent en changer. Et surtout pas pour quelque chose de moins bon. S'il y a bien un truc qu'on ne veut pas changer, c'est ça. Les petites habitudes qu'on a, par exemple les fumeurs, bon, ils ont leur marque de cigarette. Enfin, même les marques, il n'y a même plus de marque maintenant sur les paquets, tant mieux d'ailleurs. Il ne devrait plus avoir de clope du tout, d'ailleurs, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est les habitudes, d'accord ? Donc on a notre marque, ok ? C'est notre marque. Notre marque de bière, ceux qui aiment les bières, bon, ils aiment les bières blondes, machin, ils ont leur marque. On a nos habitudes comme ça pour tout. Et le café, bon ben. Les buveurs de café ou même les buveurs de café occasionnels, le petit café du matin, bon ben voilà, on est habitué à ce goût, à cette saveur, à cet arôme, à cette marque-là, parce qu'on sait qu'on n'est pas déçu. Et une fois, on va dans un autre magasin parce que notre magasin habituel est fermé et il n'y a pas la marque qu'on boit d'habitude, on en prend une autre et c'est pas pareil. Même si c'était moins cher ou c'était plus cher, on n'a pas la même sensation, on n'a pas nos repères, on n'a pas cette petite habitude matinale qui est sympathique. C'est difficile de faire changer des habitudes. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, le marché comme le café, c'est vraiment compliqué. Parce que y a un lien direct avec le quotidien des gens, les habitudes, les petites choses qui nous rassurent, les petites choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir en se levant le matin ou après le repas. Voilà. Donc, changer l'habitude, c'est très, très difficile. Donc, vous vous exposez en plus à vous battre contre des marques établis, qui ont une notoriété qui est déjà là, quoi, avec une clientèle fidèle, si pas des fans. Donc, bref, si vous jouez sur ce segment-là en essayant de casser les prix pour faire moins cher que ceux qui sont là depuis avant vous, plus longtemps que vous, bah, vous allez clairement ramer, mais vraiment, vraiment, vraiment ramer. Donc, l'exemple du café est un très bon exemple, en fait. Donc, comment se faire une place sur un marché qui est très, très, très concurrentiel ? Et ça, cette question-là, vous pouvez vous la poser quel que soit votre secteur d'activité. Parce que quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes sur un secteur très concurrentiel aujourd'hui, à l'époque où on vit, à mon avis, vous avez des concurrents. Donc, comment se faire une place sur un marché qui est très, très, très concurrentiel ? Eh bien, regardez ce que font les autres et faites l'exact opposé. Faites le contraire. Maintenant, on va prendre un exemple. Et vous allez voir que cet exemple va totalement aller dans ce sens-là. Est-ce que vous connaissez tous la marque Nespresso ? Alors, je sais que ça m'arrive de poser des questions cons, mais là, effectivement, je me rends compte du niveau de la question quand même. Donc oui, j'imagine que vous connaissez tous les cafés Nespresso. Alors, excellent produit, avec un marketing exceptionnel, rien à dire. Maintenant, savez-vous combien Nestlé vend ce café au kilo ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien un kilo de Nespresso coûtait ? Eh bien, le café, ils le vendent 150 euros du kilo. Donc, ce qui veut dire que vous payez un expresso plus cher que du champagne. Bim. Ça fait mal, hein, quand même, hein, quand on ne s'en rend pas compte comme ça. Donc, 150 euros du kilo. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est trop cher. Vraiment pas. Je ne suis pas en train de dire que le produit ne le vaut pas. J'en achète, d'ailleurs. J'aimerais ici qu'on comprenne, qu'on essaye d'expliquer ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut justifier un tel prix pour du café, sachant que un bon café classique qu'on va trouver en supermarché, qu'on nous sert dans n'importe quel restaurant, bref, coûte entre 10 et 12 euros. Et ça fait bien le job, hein, y a pas de problème, c'est un excellent café. Qu'on le fasse en percolateur, qu'on le fasse en cafetière italienne, peu importe quoi, il sera bon. 10-12 euros. Là, on le paye 150 quand même. Donc, comment justifier un tel prix ? Eh bien, ils ont mis le paquet sur la valeur perçue et l'expérience client. La réponse, elle est juste là. Valeur perçue, expérience client. Voilà les deux leviers que Nespresso a utilisés pour justifier, ou pas, d'ailleurs, ils ne justifient rien du tout, ils ne vous demandent même pas votre avis. Ils justifient que dalle. Ils disent, voilà, ça va être 150 euros, voilà, mais pour le vendre à ce prix-là, bah, on va rajouter un petit peu de ceci et un petit peu de cela, à savoir packaging, d'accord, et expérience client. Valeur perçue, clairement, c'est que de la valeur perçue. La valeur perçue est dans bien des cas un levier accessible à tout le monde. N'importe qui peut se dire, tiens, je vais ajouter un peu de valeur perçue à mon produit et mon service, et par conséquent, faire grimper mes tarifs. Donc, en voilà quelques-uns d'exemples de valeur perçue, et c'est clairement ce que fait nos amis de chez Nestlé. Soigner son packaging, très important. Avoir une bonne stratégie de contenu, super important. Un marketing qui implique le consommateur dans l'histoire de la marque. Un bon storytelling. On y revient toujours, mais avoir une marque forte avec un branding soigné. Un branding, c'est l'image de marque, c'est quelque chose quand même de primordial. Et ça augmente clairement la valeur perçue. Donc la valeur perçue tournera beaucoup autour des premières impressions. Premières impressions, les premiers contacts qu'on va avoir avec le produit. Et il faut reconnaître une chose, chez Nespresso, tout y est. Absolument tout. On peut prendre n'importe quel livre des plus grandes écoles marketing du monde. Il y a une checklist, page 204. Voilà, les différents leviers à activer pour augmenter votre valeur perçue. Tous les checks sont dedans. Ça, c'est sûr et net, sûr et certain, tout y est. Là-dessus, c'est du sans faute. Donc, ils éduquent les consommateurs sur l'origine des arômes. Ils rédigent, mais même ils ont des storytellers, ils ont des copywriters qui travaillent. Ils éditent et ils envoient à leurs clients des brochures de très très haute qualité en plus, qui en plus de vendre, enseignent les origines de certains cafés, enseignent les techniques de torréfaction. Ils donnent même des recettes à base de café. Donc il y a des gens qui travaillent sur de la rédaction, sur de la recherche d'informations, sur du storytelling, etc., etc. Et ils impriment tout ça sur des brochures de vraiment très haute qualité. Il faut reconnaître, c'est vraiment de l'édition. Hein. On n'est pas on n'est pas sur du prospectus publicitaire à la con. Non, non, c'est de l'édition, des belles reliures, très très belle production, etc. Donc ils ne font pas les choses à moitié. C'est une vraie valeur hein, quand on reçoit le prospectus avec les quelques informations, etc. On se dit, tiens, c'est agréable de l'ouvrir. Tiens, on a envie de boire un café. On le reçoit, on le sort de l'enveloppe, on l'ouvre. Ah, tiens, je vais le lire, mais je vais me prendre un petit café avec ça. Donc, ils font quand même très, très bien leur job. Mais voilà, tout ça, ça a une valeur. D'accord ? Mais quelle valeur ? Qu'est-ce que ça a comme valeur ? Bon, effectivement, le papier, etc., ça coûte de l'argent. Mais en fin de compte, c'est quoi ? C'est des gens qui rédigent des histoires. D'accord ? Donc, est-ce que ça a une valeur ? Oui, sans aucun doute. Et c'est clairement une partie de ce que vous payez dans les 150 euros du kilo. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est ce que ça coûte réellement. D'accord. Donc on va décortiquer le truc ensemble. Il y a par contre un autre levier concurrentiel chez Nespresso, quand même qui est très très important, c'est l'expérience client. C'est un des rares concept stores, d'accord, qui vend un produit aussi banal que du café. C'est banal du café, c'est clair, rien d'extraordinaire là-dedans. Il y a, je sais pas moi, 200 ans, c'était peut-être un produit extrêmement rare. Aujourd'hui, plus du tout. Donc c'est un des rares concept stores qui vous vend un produit aussi banal que du café et qui vous traite, qui que vous soyez, comme si vous étiez dans une boutique de haute couture ou un designer ou chez un designer haut de gamme. On vous traite comme un client haut de gamme. Okay, vous êtes important et valorisé comme quelqu'un qui a les moyens de choisir leur marque. Ça, c'est une technique qui est empruntée au marketing de luxe. Valoriser les clients et leur donner de l'importance. Flatter l'ego. On parle de valeur, on ne parle pas de prix. Okay ? Donc, l'expérience client, la manière dont on traite les clients, dont on valorise les clients, c'est une valeur ajoutée, parce que c'est une relation commerciale qui demande quand même une formation pour les personnes qui sont dans les stores. Mais c'est encore une fois, ici, qu'est-ce que ça coûte ? De former un mec en magasin, tu dis voilà, les gens en ligne ici, on rend, truc, etc. Vous leur parlez comme ça, bref, c'est un code. En termes de production, c'est pas énorme. En plus de ça, dans cette relation client, vous avez la carte de membre au club privé de Nespresso. Vous voyez cette petite carte plastifiée, magnifique, très belle, très sobre, comme ça, qui vous donne accès à une dégustation gratuite dans tous les stores du monde. Et là, c'est quand même très, 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 très fort. Tu viens de t'acheter deux misérables packs de capsules de, je sais pas quoi, là, un café fortissimo, j'en sais rien, pour te sentir un peu comme George Clooney, et bim, tu vas la projeter au rang de client VIP avec un accès mondial à un salon privé. Avant de rentrer, tu n'étais rien qu'un petit buveur de café. Maintenant, tu veux la consommateur haut de gamme avec une carte personnalisée qui te donne accès au concept store de la 5e avenue de New York. Là, franchement, je dis bravo. Là, c'est très fort quand même. Donc la carte de membre, en fait, je l'ai, hein, dans mon portefeuille, je l'ai. Je n'ai pas souvenir, par contre, l'avoir jamais sortie, si ce n'est quand je vais de temps en temps acheter quelques capsules dans un magasin. Mais théoriquement, si on suit la promesse, on débarque à Londres, Paris, New York, Tokyo, on rentre dans un espresso truc, on monte sa carte, on vous reçoit dans le petit salon, vous avez une dégustation gratuite. C'est quand même très fort. Donc ça, c'est vraiment de la valeur perçue, c'est du marketing client, c'est du marketing relationnel. Et c'est clairement une valeur ajoutée, et ça justifie aussi, ce traitement de faveur justifie un certain prix.
Vous écoutez Best-Seller.
Donc maintenant, on va essayer de regarder à ce que ça coûte. Regardons ces deux leviers de valeur, que sont la valeur perçue sur le packaging, l'apparence du produit, et sur un concept commercial qui met l'ego du client au centre de la stratégie. Alors, à votre avis, combien ça coûte d'ajouter ça à un produit pour le différencier de ses concurrents ? Prenons le packaging, les brochures, le direct marketing, etc. Donc là, vu la qualité des éditions, vu la qualité du truc, ça a coûté assez cher, mais je pense que sur la masse, ça s'amortit quand même assez vite. Mais il y a quand même ici, le packaging doit quand même coûter un prix assez important. Le reste de tout ça, c'est des copywriters, des designers, bref, c'est des idées. D'accord ? Elles sont le fruit de l'imagination humaine. C'est pas une matière première dont le prix varie en fonction des marchés. Donc c'est du staff cost. Ils ont engagé X dizaines de personnes qui rédigent du contenu, qui font du copy, qui font de la mise en page, qui font du, voilà, ils font du sexy autour de leur capsule, autour de leur, de l'historique de leur produit. D'accord ? Je pense que quelques bonnes idées, c'est à la portée de chacun. On est d'accord. Si vous vous dites, voilà, ils arrivent à augmenter leur valeur perçue en faisant du bon storytelling, en racontant des histoires, en expliquant l'origine, en expliquant ceci, avec une mise en page un peu léchée, un copywriter, storyteller qui a une bonne plume et qui a une bonne orthographe, plus un bon graphiste, c'est bon, hein. Vous avez les ressources nécessaires que pour faire la même chose. Donc, encore une fois, c'est pas du tout hors de portée. Et le packaging, être original dans son packaging et dans son contenu, c'est aussi accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'imprimer des boîtes en carton, super épais, en soft touch, avec du vernis repéré, etc. Non, vous pouvez faire un packaging original, efficace, et sans que ça vous coûte une fortune. Le packaging, j'aimerais bien faire un sujet sur le packaging. C'est trop souvent négligé, le packaging, je trouve. Parce que, exemple, j'étais il n'y a pas longtemps, je fais régulièrement ça, je me mets dans un centre commercial, je m'assieds sur un banc et je regarde passer les gens. Je fais ça dans les rues commerçantes aussi, les jours de grande influence. Je m'assieds sur un banc et je regarde, j'observe. De temps en temps, je prends une photo ou je filme. Et j'analyse après. Et donc, je me retrouve un jour à Paris, dans un quartier tout près du Bon Marché. Et une rue où il y a quand même beaucoup de passages, c'est une rue annexe par là, il y a beaucoup, beaucoup de passages, beaucoup de boutiques évidemment, donc c'est quand même une influence commerciale assez importante. Et je m'assieds sur un banc et je regarde passer les gens, et puis c'est principalement des gens qui font du shopping qui passent par là. Et à un moment donné, je vois passer une dame, puis une deuxième, puis un monsieur, puis un couple, et puis voilà. Et je les vois tous avec des sacs, et des sacs, et des sacs, et puis je me rends compte que ça fait quand même la troisième personne que je vois passer avec un sac en papier dans lequel il y a forcément des articles que cette personne vient d'acheter dans une boutique du quartier. Et sur ce sac, il n'y a pas de logo. Il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas de marque, il n'y a rien d'imprimé sur ce sac. Puis j'en vois passer un deuxième, troisième, même chose, pas de logo. Attends. Et puis à un moment donné, la deuxième vague arrive et là, je commence à voir passer des gens qui ont des logos avec des marques dessus, mais des grandes marques, des trucs. Et je me dis, mais waouh ! Ce qui veut dire que mon constat du moment, c'était qu'il y a des commerçants quand même qui ne réalisent pas l'importance d'un sac, l'importance d'un client qui sort de votre magasin avec votre produit. Il a sur son, donc dans sa main, d'accord, il tient dans sa main un sac dans lequel il vient de vous acheter, je sais pas moi, des pulls, des chemises, des vestes, des chaussures, j'en sais, un peu importe quoi. Il va marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes dans le quartier, peut-être il va même peut-être aller dans le quartier à côté, il va peut-être marcher, il va peut-être même traverser la ville avec ce sac. Il va aller récupérer sa voiture, il va aller prendre un métro, il va prendre un bus, peu importe quoi. Il va croiser des centaines de personnes dans la rue, des centaines et des centaines de personnes. Et beaucoup de gens vont regarder ce sac en se demandant, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac en fait ? Qu'est-ce qu'il a bien acheté ? Mais le sac, il pourrait le dire tout seul. Libre à vous de l'écrire sur votre sac, quoi. Donc, les commerçants qui se disent, tiens, je vais laisser sortir cette... En plus, dans un quartier comme ça, en plein centre de Paris, où il y a des centaines et des centaines de personnes, des milliers de personnes qui passent chaque jour, des centaines de milliers, peut-être même des millions, j'en sais rien. C'est pas la question, de toute façon. Le commerçant qui se dit, je vais laisser sortir cette personne de mon magasin avec les articles dans son sac, et je ne vais pas utiliser ce client pour communiquer ma marque et communiquer sur mon enseigne. Excuse-moi, hein, mais c'est complètement con. Franchement, c'est ridicule. Il ne faut pas négliger son packaging, c'est primordial, quoi. Quand vous sortez d'une boutique, vous tenez une boutique, les clients qui sortent de chez vous, ils vont marcher pendant un quart d'heure, et pendant un quart d'heure, ils vont travailler pour vous gratuitement. Imprimez vos logos sur vos sacs, quoi. C'est la base. Je ne dis pas que c'est ça qui va augmenter la valeur perçue de votre produit, clairement pas, mais ça va vous aider à faire véhiculer votre nom et faire véhiculer votre marque. Donc voilà, quand je dis que le packaging est souvent négligé, trop souvent négligé, c'est à ce niveau-là, quoi. C'est même au niveau et même au point de ne pas imprimer un logo sur un sac, quoi. Enfin voilà, donc packaging est un média hyper puissant et trop souvent sous-estimé, franchement, pensez-y. Donc ensuite, on a l'expérience client. Alors, retenez que ce qu'on entend, on l'oublie. Ce que l'on voit, on s'en souvient. Mais ce qu'on vit, non seulement on l'apprend, mais on ne l'oublie jamais. Donc l'expérience client, si vous faites vivre une expérience extraordinaire à vos clients, ils ne vous oublieront pas. Et en plus, ils en parleront autour d'eux. Et donc, si vous arrivez à livrer une belle expérience client, si vous faites vivre quelque chose à vos clients, vous avez des ambassadeurs qui, de la même manière qu'avec le sac qui véhicule votre logo, ces clients vont travailler pour vous et vont véhiculer votre idée, vont véhiculer votre marque, vont parler de vous autour d'eux, vont vraiment diffuser votre message dans leur entourage. Vous avez simplement ici justifié un prix plus haut en offrant une véritable expérience à vos clients. Et donc, c'est une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée va en plus de ça, encore une fois, travailler pour vous. Donc, travailler sur l'expérience client, c'est quelque chose de vraiment important. Et ça, combiné avec un bon packaging, c'est déjà deux manières, je trouve, d'augmenter la valeur perçue, la valeur ajoutée, et de justifier un prix plus élevé parce que première impression qu'on va avoir quand on est en contact avec un produit, c'est le packaging qui va le donner. Et puis deux, la manière dont on va être traité dans l'expérience client, qu'elle soit digitale, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en point de vente. Les gens aujourd'hui cherchent de l'expérience plus que des prix réellement. Donc voilà, essayez de vous poser la question de savoir comment est-ce que si vous étiez aujourd'hui un nouveau producteur de café, vous arriveriez à vous positionner sur un marché sur lequel il est absolument impossible de jouer la guerre des prix. Voilà. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe quel est votre domaine, votre secteur, à partir de maintenant, pensez, je suis une marque de café, je viens d'hériter d'une plantation, c'était où j'avais dit ça ? C'était en Colombie, voilà, vous venez d'hériter d'une plantation en Colombie, et vous devez absolument valoriser ça et en faire un business qui tourne, et dites-vous, voilà, les gens ne vont pas changer leurs habitudes, d'accord, en tout cas, pas pour quelque chose de moins bon. S'ils changent leurs habitudes, c'est pour du meilleur. Comment est-ce que je vais faire pour me positionner comme étant meilleur, en étant différent des autres, et faire en sorte d'être totalement incontournable et d'être un ovni, un extraterrestre sur ce marché concurrentiel qui est le café, donc désormais votre nouveau secteur d'activité de référence. Voilà, mettez-vous dans ce truc-là. Ils sont tous à 10-12 euros du café, du 10-12 euros du kilo, pardon, et vous devez arriver à justifier la manière de vendre ça à 150 ou 200 euros du kilo. Voilà, un petit exercice à faire. Réfléchissez à cette problématique et à ce cas de figure. C'est assez ludique et ça permet vraiment aussi parfois de penser totalement autrement et d'avoir un tout autre regard sur son quotidien, sur son produit, sur son service, sur son business. Et vous verrez que ça va déclencher quelques idées. En tout cas, voilà, si vous voulez partager vos réflexions sur la question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur mon site internet www.stevecrispin.com. Alors, par contre, il y a plusieurs leviers aussi sur lesquels vous pouvez jouer. On a parlé ici du packaging et de l'expérience client, mais il y a aussi la relation client. Il n'y a pas que l'expérience client. Par exemple, la relation client. Tout ce qui va être en contact direct avec les questions commerciales, les questions le SAV quoi. Si on voit par exemple aujourd'hui ce qui se passe dans les grandes enseignes, je parle des mastodontes, hein, UPS par exemple, ou les services de téléphonie ou autres, il n'y a rien de plus insupportable quand on doit contacter ces gens à l'administration pour avoir une information qui n'est pas directement liée avec l'achat d'un produit. Un nouveau produit, j'entends, une nouvelle expérience d'achat. Parce que là, par contre, quand vous voulez avoir... vous n'êtes pas client chez nous, vous voulez le service commercial, vous voulez... bim, vous avez directement quelqu'un. Par contre, vous êtes déjà client chez nous, etc. Hein, si vous voulez payer votre facture, appuyez sur 1. Introduire une domiciliation, appuyez sur 2. Voilà. Pour connaître le solde de votre facture, appuyez sur 3. Voilà. Pour payer, appuyez sur 4. Pour payer encore plus, appuyez sur 5. Bah, bref, c'est insupportable, quoi. C'est réellement insupportable. Et donc, si vous voulez avoir un humain au bout du fil... Ça vous prend une éternité, en fin de compte, quand vous écoutez tous les menus, les sous-menus, les sous-sous-menus, vous appuyez sur truc étoile, machin, votre numéro client, claque, ben vous arrivez sur une voix qui vous dit, voilà, pour toute réponse à vos questions, visitez la page aide de notre site internet, www.avatfairfoot.com. Bordel, ça me saoule, c'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Vous voulez vraiment améliorer l'expérience de vos clients et jouer sur le SAV pour augmenter la valeur perçue de votre produit et donc par conséquent justifier un prix supérieur, franchement ça c'est une problématique qu'il faut réellement régler parce que de plus en plus les boîtes investissent dans des robots qui répondent à des questions sans vraiment y répondre ou des chatbots qui, voilà, et il n'y a plus aucun contact. Ça, c'est une manière d'augmenter la valeur perçue. Faites le contraire. Regardez ce que font les autres et faites l'exact opposé. Et ben, la majorité des grosses boîtes font ça. Ils mettent des robots pour répondre aux questions des clients. Ben, vous allez mettre des humains et vous allez réellement répondre aux questions de vos clients et apporter une réelle valeur à l'échange que vous allez avoir avec, avec tous ces gens-là. Ça, c'est une, pour moi, c'est vraiment un levier indispensable. Il y en a d'autres. Hein. On pourrait très bien aussi aller sur les ressources, par exemple. Vous pourriez très bien vous associer avec une autre marque ou avec un fournisseur de produits ou de matières qui sont pro-environnemental, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des produits, des matières recyclables ou que sais-je. Vous allez faire, par exemple, vous allez vous afficher comme étant utilisateur de telle ou telle solution qui est éco-responsable. Ou vous allez, je ne sais pas moi, afficher le fait que vous n'utilisez pas de détergent nocif ou que sais-je, j'en sais rien. Mais voilà, c'est l'idée. C'est dire, voilà, j'ai un partenariat avec... Enfin, c'est une ressource. En tout cas, j'affiche le fait que j'utilise tel ou tel type de produit. Donc ça justifie une valeur supplémentaire et beaucoup de gens sont prêts à payer une différence de prix pour justement se sentir investi et impliqué dans cette cause qui est l'écologie et qui est la protection de la planète. C'est totalement tendance et en même temps ce n'est pas que du vent, ce n'est pas que du marketing, c'est réellement aussi une problématique à laquelle il faut répondre. Et donc si vous pouvez proposer une solution comme celle-là, pourquoi pas ? C'est une valeur perçue supplémentaire et c'est une véritable valeur ajoutée en plus. Donc pourquoi s'en priver ? Bref, je vous laisse donc réfléchir là-dessus et imaginer comment activer l'un ou l'autre de ces leviers sur votre, dans votre propre business. Hein, mettez-vous dans la peau, encore une fois, du producteur de café et voyez un petit peu aussi comment vous pouvez activer un levier ou l'autre qui va vous permettre d'augmenter des prix et vous différencier de vos concurrents avec une véritable valeur ajoutée et aussi ben, une valeur perçue. Il en faut, la valeur perçue ne coûte rien, la valeur ajoutée, elle coûte par contre un petit peu. Donc retenez que packaging, hein, pour ceux que ça concerne, ou la livraison et expérience client sont les deux leviers principaux utilisés par les grandes marques. Voilà, ce sont les deux leviers qui coûtent le moins cher, réellement, clairement. Donc voilà, essayez vraiment de réfléchir à la manière d'implémenter ça dans votre activité. Je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que vous avez aimé cette émission. N'hésitez donc pas à la liker sur iTunes Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher ou peu importe la plateforme à partir de laquelle vous m'écoutez. Abonnez-vous à l'émission pour ne pas rater les suivantes. Si vous voulez réagir sur ce contenu, vous nous soumettre vos questions, vos problématiques, vos études de cas ou encore intervenir pendant l'émission en direct, envoyez-moi un message via ma page Facebook ou via mon site internet stevecrispin.com. Je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très vite.
C'était Best-Seller. Merci d'avoir écouté cette émission. Pour encore plus de contenu gratuit, rendez-vous sur stevecrispin.com. Et n'oubliez pas, STEEV.